Chapitre 34. La roue tisse. Les premières lueurs de l'aube dansaient déjà à l'horizon lorsque Tom Merrilin quitta enfin le manoir du seigneur Bartan. Sur le chemin de la grappe de raisin, alors qu'un calme rare régnait sur la ceinture, même dans le quartier des tavernes et des salles de spectacle, il fallait bien que les gens se reposent, le trouvère ne se serait même pas aperçu qu'un incendie faisait rage autour de lui. Une partie des invités avait insisté pour le garder jusqu'au bout de la nuit, bien longtemps après que leur hôte et la majorité des convives se furent retirés. Hélas, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Quelle mouche l'avait piqué pour qu'il délaisse la grande quête du corps en faveur des histoires et des chansons qu'il interpréterait dans les villages? Comment Souza soumit à sa volonté Jane l'explorateur, le comte de Marat et des trois rois stupides? Sans parler des anecdotes piquantes sur Anla le conseiller philosophe. Dans son esprit, il s'agissait d'une moquerie, un commentaire ironique sur la bêtise et la vanité de ces nobles. Comment était-il possible que ces idiots se soient mis à l'écouter à partir de là? Et à en redemander sans cesse. Bien sûr, il riait au mauvais moment et des mauvaises choses. Il se moquait aussi de lui, le croyant trop abruti pour comprendre. Ou assez vénal pour qu'une bourse bien remplie glissée dans sa poche suffise à apaiser son honneur outragé. Fou de rage, Tom avait déjà failli jeter deux fois la maudite bourse. Mais cet argent qui lui brûlait les doigts et bafouait son orgueil n'était pas la seule raison de sa mauvaise humeur. Non content de le mépriser, ses fichus nobles l'avaient bombardé de questions sur Rand. Avec un trou vert, ils oubliaient les subtilités du grand jeu. Que faisait Altor à Caerienne? Pourquoi un seigneur du royaume d'Andorre avait-il eu une conversation privée avec un vulgaire saltimbanque? Pris de court, Tom doutait d'avoir toujours trouvé la bonne réponse. Quand on ne pratiquait plus le Dice Daimar, les réflexes s'émoussaient vite. Avant de regagner son auberge, Tom avait fait un détour par le grand arbre. À Caerienne, il n'était jamais bien difficile d'apprendre où était descendu quelqu'un. La raison de cette visite, il n'aurait su la préciser lui-même. De toute façon, Rand était déjà parti en compagnie de ses amis et de l'Aes Sedai. Une rencontre ratée qui laissait au trouvère un sentiment d'inachevé. Mais le garçon vole de ses propres ailes désormais. Et moi, je suis hors du coup. Une fois à l'auberge, le trouvère traversa la salle commune déserte, là encore un spectacle rare, et gravit les marches de l'escalier deux par deux. Du moins, il essaya. Sa jambe droite refusant de se plier assez, il trébucha et faillit se casser la figure. De plus en plus agacé, il acheva l'ascension à un rythme plus raisonnable, gagna sa chambre et ouvrit doucement la porte pour ne pas réveiller Dena. Malgré sa morosité, il sourit lorsqu'il la vit étendue sur le lit, tout habillée, le visage tourné vers le mur. Elle s'est endormie en m'attendant, la petite idiote. Une pensée pleine de tendresse. Quoi que fasse la jeune femme, il lui trouvait toujours une excuse, n'imaginant pas ce qu'il pourrait être un jour incapable de lui pardonner. Sur une impulsion, il décida qu'elle donnerait sa première représentation le soir même. Content de lui, il posa l'étui de sa harpe au pied du lit et saisit Dena par l'épaule, la secouant afin de lui annoncer la bonne nouvelle. La jeune femme roula sur le dos, ses yeux vitreux fixés sur le plafond sans le voir. Une plaie lui barrait la gorge, et du côté du mur, la literie était rouge de sang. S'il n'avait pas eu la gorge si serrée, Tom aurait hurlé ou vomi. Peut-être les deux en même temps. Un grincement de porte d'armoire l'avertit du danger. Il se retourna, ses couteaux jaillissant de ses manches puis de ses mains. Le premier transperça la gorge d'un gros type chauve qui brandissait une dague. Tandis que celui-ci s'écroulait en portant les mains à son cou, le deuxième couteau se ficha dans l'épaule d'un second agresseur, occupé à sortir de l'autre armoire. Le tueur au visage balafré lâcha son coutelas, baissa les yeux sur son bras désormais inerte, et tenta de bondir vers la porte. Titubant à cause de l'état de choc, il n'avait pas fait deux pas quand une troisième lame lui trancha net un tendon d'Achille. Criant de douleur, il bascula en avant, neutralisé par cette vieille technique inspirée des voleurs surnommés les coupes-jarrets. Le saisissant par les cheveux, Tom l'envoya percuter le mur le plus proche, tête la première, afin de le calmer pour de bon. Lorsque le manche du couteau fiché dans son épaule heurta la porte, le grand tueur brailla comme un cochon qu'on égorge. Tom le retourna par le col et lui braqua la pointe de son couteau sur un œil. Sonné, le balafré ne scia même pas et n'esquissa pas un mouvement. Du coin de l'œil, Tom s'assura que l'autre assassin en avait fini avec l'existence. Un gros porc de moins qui arpenterait cette terre.
« Avant de te tuer, » souffla Tom à son prisonnier, « je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. »
Le Trouvert s'étonna lui-même du son de sa voix, calme et neutre, comme si plus rien n'avait d'importance pour lui.
« Le grand jeu !»
souffla le tueur. Il avait l'accent des rues et la tenue assortie. Mais il était bien trop propre sur lui pour être un simple miséreux de la ceinture. À l'évidence, il avait bien plus d'argent à dépenser que le plus opulent de ses traînes savates.
« Rien de personnel, tu comprends ? Le grand jeu, voilà tout. Le grand jeu ! Je n'y suis plus impliqué depuis longtemps. Qui a ordonné ma mort ? Qui ?»
Tom approcha encore la pointe de la lame. Un souffle de plus et...
« Bartan !»
couina le tueur.
« Le seigneur Bartan ! Mais nous ne t'aurions pas abattu. Il veut des informations, et il est même prêt à les payer. Une couronne d'or, et peut-être même deux. »
« Menteur, je viens de chez Bartan. S'il avait voulu quelque chose de moi, je ne serais jamais sorti vivant. »
« Mon gars, ça fait des jours que nous cherchons quelqu'un qui connaisse ce seigneur andorien. Je n'avais jamais entendu parler de toi avant hier, dans la salle commune. 5 couronnes, ça te tente ? Le seigneur Bartan est généreux. »
Le tueur tenta d'écarter sa tête du couteau, mais Tom l'en empêcha.
« Quel seigneur andorien ? »
Une question rhétorique. Pas la lumière. Tom connaissait déjà la réponse.
Rand, de la maison Altor. Un jeune maître escrimeur. En tout cas, il porte une épée au héron. Je sais qu'il est venu te voir en compagnie d'un ogier. Dis-moi ce que tu sais, et j'ajouterai 1 ou 2 couronnes de ma poche.
Espèce de crétin, cracha Tom. Dena est morte pour ça ? Lumière, elle est morte.
« Ce garçon est un berger, abruti !»
Un berger vêtu d'une belle veste, avec des Aes Sedai qui tournent autour de lui, comme des abeilles autour d'un rosier en fleurs.
« Un berger, m'entends-tu ? »
Tom serra plus fort les cheveux du tueur.
« Attends, attends ! Tu peux te faire bien plus de 5 couronnes. 10, 20, 100 même ! Toutes les maisons veulent en savoir plus au sujet de Randaltor. Au moins 3 ont voulu m'engager. Avec ce que tu sais. » Et ma connaissance de la clientèle, on se remplira les poches. Et il y a aussi cette femme que j'ai souvent croisée, dès que je me renseignais sur lui. Si nous découvrons son identité, ce sera monnayable aussi.
« Tu n'as fait qu'une seule erreur, mon gars, » dit sombrement Tom.
« Une erreur ?»
La main gauche du type glissait lentement vers sa ceinture, où il cachait sûrement une autre dague. Tom fit mine de n'avoir rien vu.
« La fille, tu n'aurais pas dû la toucher. »
Le tueur tenta de saisir son arme, mais le couteau de Tom lui traversa l'œil, s'enfonçant jusqu'à son cerveau. Le Trouvert lâcha le cadavre, le regarda un long moment, puis se pencha pour dégager son arme. La porte s'ouvrant à la volée, il pivota sur lui-même, prêt à frapper. Zera recula, porta une main à sa gorge et dévisagea le Trouvert.
« Ella vient juste de me dire que 2 types t'avaient demandé hier soir. Avec ce que j'ai entendu le matin, ça m'a inquiété. » « Tom, je croyais que tu ne jouais plus au grand jeu. »«
Je pensais m'en être sorti. Mais ils m'y ont ramené, Zera. »
Avisant enfin les cadavres des 2 tueurs, l'aubergiste avança dans la chambre et ferma la porte derrière elle.
« C'est une sale histoire, Tom. Tu vas devoir quitter Kairien. »
Zera blêmit, car son regard venait de se poser sur le lit.
« Non, non, Tom, c'est affreux. Je
ne peux pas partir tout de suite. »
Tom hésita, puis il tira une couverture sur Dena, dissimulant son visage adoré.
« Il me reste un salaud à tuer. »
L'aubergiste se força à détourner le regard du lit.
« Si tu fais allusion à Bartan, »
dit-elle d'une voix blanche.
« C'est trop tard. Tout le monde en parle déjà. Il est mort. Ses serviteurs l'ont trouvé dans sa chambre ce matin, littéralement déchiqueté. Et reconnaissable parce que sa tête était fichée au bout d'une pique, au-dessus de la cheminée. Tom, tu ne pourras pas cacher que tu étais chez lui cette nuit. Avec ce qui vient d'arriver, personne ne croira que tu n'es pour rien dans la fin de Bartan. »
À en juger par son ton, Zera n'en était pas certaine non plus.
Qu'importe ce qu'on pensera.
En dépit de ses efforts, Tom ne pouvait s'empêcher de regarder la dépouille allongée sous une couverture.
Je vais peut-être retourner à Kaemlyn.
Zera prit le Trouvert par les épaules et le força à tourner le dos au lit.
« Les hommes !»
soupira-t-elle.
« Toujours à réfléchir avec leurs muscles ou leur cœur, et jamais avec leur tête. Pour toi, Kemlyn n'est pas mieux que Kaerien. Dans les deux cas, tu finiras en prison ou raide mort. Tu crois que Denna aurait voulu ça? Si tu entends honorer sa mémoire, reste en vie, bon sang.
T'occuperas-tu de... Tom ne put pas en dire plus. Je vieillis, pensa-t-il, et au fil des malheurs, je me ramollis. Il sortit la bourse de sa poche et la glissa entre les mains de Zera. Ça devrait être suffisant pour tout ce qui s'impose. Ça t'aidera aussi quand on viendra t'interroger sur moi.
Je veillerai à tout, Tom. Maintenant, il faut que tu files.
Hochant tristement la tête, le trouvère commença à fourrer quelques affaires dans des sacoches de sel. Pendant qu'il travaillait, Zera étudia pour la première fois le gros type à demi écroulé dans l'armoire. La voyant blêmir, Tom s'étonna, car elle n'était pas du genre à s'émouvoir à la vue du sang.
Ce ne sont pas des hommes de Bardan. Le gros, en tout cas, il travaillait pour la maison Riatine. C'est le plus grand secret des polichinelles de la capitale. Un homme du roi.
Le roi? Dans quel guépier m'a entraîné ce berger de malheur? C'est la faute des Aes Sedai, bien entendu. Mais si Denna est morte de la main d'un séide de Galdrian, ça change tout.
Zera dut lire les pensées du trouvère sur son visage, car elle s'écria.
Denna aurait voulu que tu vives, vieux fou! Essaie de t'en prendre au roi, et tu seras mort avant de l'avoir approché à moins de 100 pas, si tu arrives si près.
Un rugissement monta de la cité intérieure, comme si toute la capitale criait. Inquiet, Tom alla jeter un coup d'œil par la fenêtre. Derrière les hauts murs, une colonne de fumée s'élevait dans le ciel, dominant les toits de la ceinture. Elle venait du cœur de la cité, et d'autres colonnes, plus fines, l'accompagnaient en volutes effilochées. Tom estima la distance et prit une grande inspiration.
« Tu devrais peut-être songer à t'en aller aussi, »
dit-il à Zera.
« On dirait bien que quelqu'un est en train d'incendier les silos à grains du côté du port. »«
J'ai déjà survécu à des émeutes. Fiche le camp, Tom !»
Après un dernier regard à Denna, sous son linceul de hasard, Tom prit ses bagages, mais Zara le retint en lançant.
« Je n'aime pas la lueur qui brille dans tes yeux, Tom Merrilyn. Imagine Denna assise sur ce lit, en pleine santé. Que dirait-elle ? Te laisserait-elle te suicider pour une vengeance qui ne changera plus rien ?»«
Je ne suis qu'un vieux trouvère, »
soupira Tom en franchissant la porte.
« Et Randaltor, lui, n'est qu'un simple berger. Mais nous faisons tous les deux notre devoir.
À qui pourrais-je faire du mal dans mon état ?»
Dès qu'il fut sorti et eut fermé la porte sur Zera et sur ce qui restait en ce monde de Denna, un sourire de prédateur étira ses lèvres. Sa jambe lui faisait un mal de chien, mais il la sentit à peine en descendant les marches, et plus du tout lorsqu'il eut quitté l'auberge. Padan Fain tira sur les rênes de sa monture et l'immobilisa au cœur d'un des rares bosquets encore présents au sommet de la colline qui dominait la cité de Falm. Surpris, le cheval de bât qui transportait le coffre faillit s'en mêler les jambes. Sans daigner le regarder, Fain flanqua un coup de pied dans le flanc de l'animal attaché au pommeau de sa selle par une longe. Renâclant, l'équidé s'arrêta lui aussi. La femme avait catégoriquement refusé de lui céder son cheval, et les suppôts qui l'accompagnaient s'étaient écriés qu'il ne resterait sûrement pas seul, à savoir hors de la présence protectrice de Fain, dans les collines avec les Trollocs. L'ancien colporteur avait résolu les deux problèmes en un tour de main. Un ragoût mis à cuire dans un chaudron Trolloc n'avait pas besoin d'une monture, pas vrai? Déjà secoué par le voyage sur les chemins, un périple entre le portail de Kaerien et celui d'un sanctuaire abandonné sur la pointe de Toman, les compagnons de la malheureuse, contraints à regarder les Trollocs préparer leur repas, s'étaient transformés en une bande de suppôts dociles comme des agneaux. Restant à l'abri des arbres, Fain étudia la cité dépourvue de fortifications et eut un ricanement méprisant. Une courte caravane de marchands venait d'entrer dans le labyrinthe d'écuries, d'enclos à chevaux et de cours à chariots qui s'étendait à la périphérie de la ville. Et une autre en sortait, les deux soulevant un minimum de poussière sur la route en terre battue compactée par des années de trafic intensif. Les conducteurs des chariots et les cavaliers qui les escortaient étaient des gens du coin, si on en jugeait par leur tenue. Les gardes du corps, c'était visible, portaient tous une épée au côté, et quelques-uns avaient en plus une lance ou un arc. Les rares soldats que Fain repéra ne semblaient pas enclins à surveiller les hommes armés qu'ils étaient pourtant censés avoir vaincus et soumis à leur joug. Après un jour et une nuit passés sur la pointe de Toman, Fain avait appris pas mal de choses au sujet des Séanchaniens. En tout cas, dans la mesure de ce que savaient de l'occupant les habitants de Falm. En trouver un en balade n'était jamais bien difficile, et quand on savait les questionner, ces gens ne répugnaient jamais à répondre. Les hommes collectaient des tombereaux d'informations sur les envahisseurs, comme s'ils pensaient devoir les utiliser un jour, peut-être comme des armes. Hélas, ils se montraient moins loquaces que les femmes. Essentiellement décidés à continuer de mener leur petite vie, quels que soient les maîtres de la cité, celles-ci remarquaient cependant des détails qui échappaient à leurs compagnons. De plus, une fois qu'elles cessaient de crier, elles se montraient remarquablement volubiles. Les enfants, enfin, se laissaient très vite délier la langue, mais ils n'avaient en général pas grand-chose à dire d'intéressant. En homme d'expérience, Fane avait écarté les trois quarts de ce qu'on lui racontait. Un ramassis de rumeurs et d'idioties que tout le monde répétait par paresse intellectuelle. À présent, il était obligé de revenir sur une partie de ses excommunications. Comme on le lui avait dit, n'importe qui pouvait entrer et sortir de Falm, une situation pas banale dans une ville conquise. Mais impossible d'en douter avec le spectacle qu'il avait sous les yeux. Voyant une vingtaine de soldats partir en patrouille, Fane dut réhabiliter une autre information qu'il avait dédaignée. Même s'il était trop loin pour distinguer les montures des militaires, il ne s'agissait pas de chevaux, ça sautait à l'œil. Avançant avec une fluidité rare, ces créatures brillaient au soleil du matin, comme si elles étaient couvertes d'écailles. Tendant le cou pour les regarder s'éloigner, Fane attendit qu'elles soient hors de vue, puis il talonna sa monture et se dirigea résolument vers la ville. Les habitants qui vaquaient à leurs occupations entre les écuries, les enclos et les cours à chariots n'accordèrent pratiquement pas un regard aux nouveaux venus. Leur rendant au centuple leur indifférence, Fane entra dans la cité elle-même, dont toutes les rues pavées descendaient vers le port. De sa position, il voyait très bien les énormes bateaux séanchaniens arrimés au quai. Tandis qu'il tentait de s'orienter dans des rues qui n'étaient jamais pleines de monde ni totalement vides, personne n'ennuya l'ancien colporteur. Au cœur de la cité, on croisait plus de soldats, et les citadins marchaient la tête basse. Tous saluaient les militaires, mais sans jamais obtenir de réponse, comme s'ils étaient transparents aux yeux des conquérants. Malgré les navires de guerre et la force d'occupation, tout semblait paisible, mais ce n'était qu'une façade. Sous cette couche de maquillage, on devinait une tension permanente. L'idéal pour Fane, qui se sentait comme un poisson dans l'eau, partout où les gens étaient anxieux et terrorisés. Arrivé devant un grand bâtiment gardé par une dizaine de soldats, Fane immobilisa sa monture et mit pied à terre. À l'exception de ce qui devait être un officier, tous les hommes portaient une simple armure noire et leurs casques les faisaient ressembler à des insectes géants, des sauterelles peut-être. Deux créatures à la peau parcheminée, trois yeux brillants au-dessus du bec qui leur donnaient lieu de nez et de bouche, flanquaient la porte, accroupies sur les pattes arrière comme des grenouilles prêtes à bondir. À côté de chaque monstre, un soldat au plastron orné de trois yeux montait la garde. Sur le toit, une bannière blanche à encadrement bleu représentait un aigle jaune aux ailes déployées. Fane ricana intérieurement et avança vers les gardes. De l'autre côté de la rue, des femmes sortaient deux par deux d'une assez grande maison. Une laisse d'argent reliait chaque binôme, mais ça n'avait rien de nouveau pour Fane, qui avait entendu parler des damanes par plusieurs villageois. Plus tard, ces étranges duos lui seraient peut-être utiles. Pour l'instant, il n'en avait rien à faire. L'officier en armure rouge, or et vert fit un pas vers l'ancien colporteur, qui se fendit d'un sourire d'une répugnante humilité.
« Messire, j'ai avec moi quelque chose qui intéressera votre haut seigneur. Dès qu'il saura, il voudra voir ce que je lui apporte et me parler face à face. »
Fane désigna le coffre toujours enveloppé d'une banale couverture. L'officier ne se démonta pas.
« Vu ton accent, l'ami, tu n'es pas du coin. As-tu prêté les serments ?»«
J'obéis, j'attends et je servirai. »
récita Fane. Tous les gens qui l'avaient interrogé s'étaient répandus sur les fameux « serments », même s'ils ne comprenaient absolument pas leur signification. Si les Séanchaniens voulaient des serments, ça ne le dérangeait pas. Au fil du temps, il avait perdu le compte de tous ceux qu'il avait prêtés avant de les oublier l'instant d'après. L'officier fit signe à deux soldats d'aller voir ce qui se cachait sous la couverture. Grognant de surprise à cause du poids de l'objet, qu'ils posèrent très vite par terre, les deux hommes crièrent de surprise dès qu'ils eurent retiré la couverture. Impassible, l'officier regarda le coffre en or décoré d'argent, puis il se tourna vers Fane.
« Un cadeau digne de l'impératrice. Suis-moi, étranger. »
Un soldat fouilla Fane sans la moindre douceur, mais le colporteur prit son mal en patience. Du coin de l'œil, il remarqua que les deux soldats et l'officier s'étaient défaits de leurs armes avant d'entrer. Chaque nouveau détail qu'il découvrait sur ces gens, y compris le plus infime, pouvait l'aider. même si son plan lui paraissait depuis le début très ingénieux. Quand des seigneurs redoutaient d'être assassinés par leurs propres sbires, la situation était encore plus favorable pour un homme tel que lui. Alors qu'il franchissait la porte, Fane vit que l'officier lui jetait un regard noir. Mais pourquoi ça ?
Bien entendu, les créatures à trois yeux.
Habitué à la compagnie des Trollocs, voire à celle des Myrdraal, Fane n'avait accordé aucune attention aux deux monstres. Malgré toute sa bonne volonté, il était un peu tard pour faire mine d'en avoir peur. Sans un mot, le Séanchanien précéda l'ancien colporteur dans les entrailles de la demeure. Comme c'était prévisible, Fane se retrouva prosterné sur le sol, carrément face contre terre, pendant que l'officier présentait au haut seigneur Tourak l'homme qu'il lui amenait et sa généreuse proposition. Quand des serviteurs apportèrent une table afin que le haut seigneur n'ait pas à se baisser, Fane aperçut uniquement la pointe de leurs chaussures. Stoïque, il attendit que ça passe. Un jour ou l'autre, probablement très proche, ce ne serait plus à lui de s'incliner ainsi. Une fois les soldats renvoyés, on daigna enfin l'autoriser à se lever. Il le fit sans hâte, profitant de l'occasion pour étudier le haut seigneur. Un chauve aux ongles démesurément longs, assez ridicule dans sa robe bleue à fleurs, et l'homme qui se tenait à ses côtés, la partie non rasée de ses cheveux blonds formant une très longue tresse. Ce personnage-là était un larbin. Fane en aurait mis sa main au feu. Mais les serviteurs, surtout de haut vol, pouvaient se révéler très utiles selon l'estime que leur accordait leur maître.
« Un merveilleux cadeau, »
dit Tourak. Il cessa de regarder le coffre pour s'intéresser à l'ancien colporteur.
« Cela dit, la question tombe sous le sens. Comment un mytheux comme toi est-il entré en possession d'un coffre que bien des nobles ne pourraient pas s'offrir ? Serais-tu un voleur ?»
Fane tira sur les plis de sa veste très modérément propre.
« Parfois, un homme doit avoir l'air très inférieur à ce qu'il est vraiment. Ô Seigneur, grâce à mon air miteux, j'ai pu t'apporter ce présent sans qu'il m'arrive malheur. Ce coffre est très vieux, aussi vieux que l'âge des légendes, et il contient un trésor que très peu dieux ont jamais contemplé. Très bientôt, je serai en mesure de l'ouvrir et de te donner tout ce qu'il te faudra pour conquérir ce continent jusqu'à la colonne vertébrale du monde, et même au-delà du désert des Aiel, si ça te chante. « À partir de ce moment-là, Seigneur, plus rien ne te résistera et... »
Fane s'interrompit, inquiet de voir Tourak passer ses doigts aux ongles absurdement longs sur les motifs gravés qui ornaient le coffre.
« J'ai déjà vu des coffres qui datent de l'âge des légendes. C'est de loin le plus beau, je dois le dire. En principe, il faut connaître un code pour les ouvrir, mais je... Ah, voilà, c'est fait. »
Avec un clic sonore, le mécanisme se déverrouilla et Tourak souleva le lourd couvercle. Baissant les yeux, il parut franchement déçu par ce qu'il découvrit. Fane dut se mordre l'intérieur des joues jusqu'au sang pour ne pas crier de rage. Ne pas être celui qui avait ouvert le coffre affaiblissait un peu sa position, mais rien n'était perdu s'il savait rester patient. Comme c'était difficile, après avoir attendu si longtemps.
« Ce seraient des trésors de l'âge des légendes ?»
demanda Tourak en soulevant le corps d'une main et la dague de l'autre. Fane serra les poings pour ne pas céder à la tentation de s'emparer de la dague.
« L'âge des légendes !»
répéta Tourak en suivant avec la pointe de la dague l'inscription en argent qui faisait le tour du pavillon de l'instrument. Le haut seigneur arqua un sourcil dubitatif. La première expression, si on pouvait dire, que Fane lui voyait depuis le début de l'audience. Mais une seconde plus tard, Tourak reprit son visage de marbre.
« Tu sais ce que c'est ? »
demanda-t-il.
« Le corps de Valère, »
répondit Fane d'un ton prosaïque, mais en se réjouissant de voir le type à la tresse en rester bouche bée. Tourak se contenta de hocher la tête, comme si la nouvelle ne l'étonnait pas. Le haut seigneur se détourna. Surpris, Fane ouvrit la bouche, mais le type à la tresse blonde lui fit signe de se taire et d'avancer. Tourak entra dans une autre salle qu'on avait vidée de son mobilier d'origine. Des paravents et des tentures voilant les murs et les fenêtres, il y avait en tout et pour tout un grand fauteuil placé devant un grand cabinet circulaire. Tenant toujours le corps et la dague, Tourak contempla un moment le meuble, puis il se tourna vers le semi-chauve blond. Il ne lui dit rien, mais l'autre Séanchanien, comme s'ils avaient communiqué quand même, lança une série d'ordres très brefs. Aussitôt, des hommes en longue tunique de laine entrèrent par une porte cachée derrière un des paravents. Portant une table similaire à la précédente, ils vinrent la poser à côté du fauteuil.
Une femme aux cheveux blonds si clairs qu'ils en paraissaient blancs marchait sur leurs talons, les bras chargés de socles en bois poli de formes et de tailles diverses. Sa robe de soie étant très fine, la jeune beauté ne dissimulait presque rien de ses charmes, mais Fane n'avait d'yeux que pour la dague. Si le corps jouait un rôle capital dans son plan, l'arme était une partie de lui-même. Tourak toucha du bout d'un index un des socles que la jeune femme posa aussitôt au centre de la table. Obéissant au type à la tresse blonde, les hommes disposèrent le fauteuil en face de la table. Quand ce fut fait, ils se retirèrent en s'inclinant si bas que leur tête en touchait presque leurs genoux. Tourak posa le corps bien droit sur le socle, plaça la dague devant et prit place dans le fauteuil. Fane ne put plus se retenir et tendit le bras pour s'emparer de l'arme. Le Séan Chanien à moitié chauve lui saisit le poignet au vol.
« Espèce de chien, hirsute !»
beugla-t-il.
« Sache que toute main qui se pose sans autorisation sur un bien du Haut Seigneur est aussitôt coupée. La dague est à moi !»
souffla Fane.
« Allons, sois patient. Tu attends depuis si longtemps. »
S'adossant à son fauteuil, Tourak tendit simplement un doigt à l'ongle bleu vers l'ancien colporteur. L'autre Séan Chanien le tira alors sur le côté, afin qu'il n'y ait plus d'obstacle visuel entre son seigneur et l'artefact.
« À toi ?» lança Tourak. « Dans un coffre que tu ne sais pas ouvrir. Si tu te montres assez intéressant, il se peut que je t'offre cette arme. Même si c'est un vestige de l'âge des légendes, je n'en ai pas grand-chose à faire. Mais avant tout, réponds à cette question. Pourquoi m'as-tu apporté le corps de Valère ?»
Fane lorgna un moment la dague avec des yeux brillants de désir. Puis il dégagea son poignet et fit une révérence tout en le massant discrètement.
« Afin que tu souffles dedans, ô Seigneur. Ainsi tu pourras conquérir le continent entier si tel est ton bon plaisir. Le monde entier même. Et si ça te chante, tu raseras la tour blanche et tailleras en pièces les Aes Sedai. Car leur pouvoir lui-même ne pourra rien contre les héros revenus d'entre les morts.
Souffler dedans, moi? Et raser la tour blanche? Encore une fois. « Pourquoi moi ? Tu te prétends prêt à obéir, à attendre et à servir. Mais comment te croire sur une terre qui grouille de parjures ? Pourquoi m'offres-tu ce continent ? Aurais-tu un compte à régler avec ces maudites femmes ?»
Fane mobilisa toute sa force de conviction.
« Patience, comme un ver qui mange une pomme de l'intérieur.
Seigneur, ma famille se transmet une tradition de génération en génération. Jadis, elle était au service du grand roi Arthur Pendrag Tanréal, et quand les sorcières de Tarvalon l'assassinèrent, elle ne lui retira pas sa royauté. Alors que d'autres lignées participèrent à la curée, démembrant l'empire créé par elle de Faucon, la mienne resta fidèle à son idéal. Non sans en souffrir, comme tu l'imagines. Mais nous nous transmettons le flambeau de père en fils et de mère en fille depuis le triste jour où mourut Arthur. Depuis ce jour, donc, nous attendons le retour des armées qu'il envoya de l'autre côté de l'océan d'Arit, avec l'espoir, bien entendu, que ces libérateurs détruisent la Tour Blanche et lui reprennent ce qui appartenait à l'illustre souverain. Et avec détermination, là encore, cela coule de source, de servir loyalement ces guerriers comme nous servions leurs glorieux ancêtres. Ô Seigneur, hormis le liseré bleu qui l'entoure, la bannière qui flotte sur cette maison est la copie de celle de Luther, le fils qu'Arthur choisit d'envoyer à l'aventure avec ses armées d'explorateurs. »
Fane tomba à genoux, imitant à la perfection la ferveur d'un zélateur fanatique.
« Ô Seigneur, mon plus grand désir est de servir et de conseiller les descendants du grand roi. »
Tourak garda le silence, si longtemps à dire vrai, que Fane envisagea d'en remettre une couche, au cas où son interlocuteur ne serait pas convaincu. Pour réussir, Fane était prêt à tout. Mais le Haut Seigneur finit par rompre son silence.
Tu sembles savoir ce que personne, parmi les humbles comme parmi les puissants, ne paraissait connaître depuis notre arrivée ici. Les gens en parlaient, bien sûr, mais comme d'une rumeur parmi cent autres. Toi, c'est différent. Je le vois dans tes yeux et l'entends dans ta voix. Sais-tu que je me demande si tu n'es pas chargé de me tendre un piège ? Mais quel ennemi en possession du corps de Valère songerait à l'utiliser ainsi contre moi? Parmi ceux du sang venus avec les aliénés, aucun ne pouvait le détenir, puisqu'il est caché depuis des lustres quelque part sur ce continent. En tout cas, selon la légende.
quant au seigneur et roi de cette terre, lequel me le confierait au lieu de s'en servir pour me combattre? Mais dis-moi, comment t'es-tu procuré le corps? Prétendrais-tu être un héros, comme l'annonce la légende? As-tu accompli d'incroyables exploits?
Je n'ai rien d'un héros, ô seigneur.
Thane eut un petit sourire modeste, mais Tourak ne sembla pas mordre à l'hameçon.
Un de mes ancêtres a découvert l'artefact après la mort d'Arthur, alors que le désordre régnait partout. Cet homme savait ouvrir le coffre, mais son secret mourut avec lui lors de la Grande Guerre des Cent Années, ce terrible conflit qui réduisit en lambeaux l'empire d'Arthur. Sachant où était l'artefact, tous les descendants du guerrier mirent un point d'honneur à le garder en sécurité en attendant le retour des descendants du grand roi.
Une fable que je suis presque tenté de croire.
Avec raison, ô seigneur. Dès que tu auras soufflé dans...
Ne gâche pas le bon travail que tu as fait jusque-là. Je ne soufflerai pas dans ce corps, sache-le. De retour chez moi, j'offrirai à l'impératrice, le présentant comme le plus précieux de mes trophées. Qui sait, elle voudra peut-être le faire sonner elle-même.
Mais, ô seigneur,
protesta Thane,
tu dois...
Sans transition, l'ancien colporteur se retrouva sur le sol, la tête bourdonnant comme si on y sonnait les cloches. Lorsque sa vision s'éclaircit, il vit le semi-chauve se masser le poing et comprit ce qui était arrivé.
« Certains mots sont interdits lorsqu'on s'adresse au Seigneur !»
souffla le Seanchanien. Thane décida de quelle façon il mourrait lorsque le moment serait venu. Très calme, comme si rien ne s'était passé, Tourak regarda alternativement le corps et l'ancien colporteur. « Je t'offrirai peut-être à l'impératrice en même temps que l'artefact. Elle pourrait trouver amusant un homme dont la famille est censée avoir tenu parole et respecter ses engagements, alors que tous les autres les ont reniés ou oubliés. » Alors qu'il se relevait, Thane fit de son mieux pour dissimuler sa soudaine allégresse. Jusqu'à ces dernières heures, il ignorait l'existence de l'impératrice. Mais pouvoir côtoyer de nouveau une tête couronnée lui ouvrait des perspectives fascinantes. Surtout si la tête couronnée en question disposait de la puissance du Seanchan tout entier et du corps de Valère. Voilà qui était 10 fois plus exaltant que de transformer Tourak en roi. Et quant à son plan d'origine, certaines parties pouvaient attendre un peu.
« De la finesse surtout.
Ne le laisse pas deviner à quel point cet enthousiasme. Après si longtemps, un peu plus de patience ne te fera pas de mal.
Comme il te plaira, ô Seigneur. »
murmura Thane, convaincu d'imiter parfaitement l'humble servilité d'un homme sans ambition personnelle.
« On dirait que tu as hâte d'y être, »
lâcha Tourak. L'ancien colporteur réprima de justesse une moue désabusée.
« Histoire de doucher ton enthousiasme, » reprit le haut seigneur, « je vais te dire pourquoi je ne soufflerai pas dans le corps et pourquoi je ne le garderai pas non plus. Comprends bien qu'un cadeau venant de moi ne peut en aucune façon indisposer l'impératrice. Si ton enthousiasme ne peut pas être éradiqué, il restera insatisfait, parce que tu ne quitteras jamais ce continent. Alors, sais-tu que quiconque souffle dans ce corps est lié à lui jusqu'à la fin de ses jours?
Oui.
Jusqu'à ce que cette personne meure, l'artefact redevient un vulgaire instrument pour le reste de l'humanité. Le savais-tu?
La question semblait purement rhétorique. En tout cas, Tourak ne marqua pas de pause pour permettre à Thane de répondre.
Dans l'ordre de succession au trône de cristal, je suis en 12e position. Si je conserve le corps, tous ceux qui me précèdent penseront que je veux leur brûler la politesse. L'impératrice tient à ce que ses successeurs potentiels s'affrontent dans une compétition loyale, afin que le meilleur, ou la meilleure, la remplace un jour sur le trône. Cela dit, elle a une préférence marquée pour Truon, sa deuxième fille. Si elle pense que je la menace, elle ne verra pas ça d'un bon œil, même si je dépose ce continent à ses pieds et si je fais défiler devant elle toutes les Aes Sedai au bout d'une laisse. Devant tant d'ostentation, l'impératrice, qu'elle puisse vivre éternellement, penserait que j'ai des ambitions plus immédiates que de postuler à sa succession.
Thane faillit souligner que renverser une tête couronnée, avec l'aide du corps, était un jeu d'enfant. Il se ravisa, car il eut le sentiment, si fou que cela parut, que le haut seigneur souhaitait sincèrement que l'impératrice ne quitte jamais ce monde.
« Je dois être patient, le ver dans la pomme. »
« Les oreilles de l'impératrice peuvent être partout, » continua Tourak.
et n'importe qui peut en être une. Juan est né et a grandi au sein de la maison Aladon, comme tous ses ancêtres depuis 11 générations. Et pourtant, rien n'interdit qu'il soit un espion de l'impératrice. Le semi-chauve esquissa un geste de protestation, mais il se ressaisit très vite, reprenant sa pose impassible. Un haut seigneur ou une haute dame ne peuvent jamais avoir la certitude que leurs secrets les plus intimes ne sont pas déjà connus des oreilles. Dans ce cas, il y a toujours le risque de finir entre les mains des limiers de vérité. La vérité n'est jamais simple à trouver, mais les limiers sont infatigables et ils ne renoncent jamais. Très prévenants, ils font tout leur possible pour que le haut seigneur ou la haute dame ne succombe pas à leurs sourcilleuses attentions. Des précautions logiques, puisque nulle main ne doit ôter la vie aux héritiers du sang béni d'Arthur et de Faucon. Quand l'impératrice est contrainte de condamner à mort un de ses héritiers, on le place vivant dans un sac de toile qu'on accroche ensuite au sommet de la tour des corbeaux, le laissant pourrir jusqu'à ce qu'il se déchire. Bien entendu, pour un vermisseau comme toi, pas question d'un traitement si doux et si respectueux. À la cour des Neuf Lunes, à Séandar, les chiens dans ton genre peuvent être confiés aux limiers pour un mot de trop, un battement de cils inconvenant ou un soupir malvenu. Alors, toujours pressé de découvrir mon pays, Fane réussit à faire semblant de trembler, une perfection au niveau des genoux.
« Je désire seulement servir et conseiller, ô Seigneur, et je sais beaucoup de choses qui pourraient être utiles. »
La cour de Séandar semblait en effet être un endroit idéal pour quelqu'un doté de ses compétences, et un terreau fertile pour ses plans.
« Jusqu'à mon départ, tu resteras avec moi, me divertissant avec l'histoire de ta famille et de ses traditions. Sur ce continent oublié de la lumière, je suis soulagé d'avoir trouvé un deuxième homme susceptible de m'amuser, même si je soupçonne les deux de me mentir. Tu peux te retirer à présent. »
Tourak ne dit rien de plus. Pourtant, la jeune femme aux cheveux presque blancs et à la robe de soie diaphane revint à la hâte, s'agenouilla devant le haut seigneur et lui présenta humblement un plateau laqué sur lequel reposait une unique tasse fumante.
« Ô seigneur !»
commença Fane. Juan lui saisit le poignet, mais il se dégagea, décidé à ne pas se laisser faire, et se prosterna devant Tourak avant de reprendre.
« Ô seigneur, des ennemis me suivent, pour prendre le corps, bien entendu. Des suppôts, et bien pire que ça, qui ne doivent pas être à plus d'un jour ou deux derrière moi. »
Tourak but une gorgée d'un liquide sombre, puis il daigna répondre.
« Chez nous, en Séanshan, il reste très peu de suppôts des ténèbres. Ceux qui survivent aux limiers finissent sous la hache du bourreau, comme il se doit. Je trouverais amusant d'en rencontrer ici.
« Seigneur, ils sont dangereux, et des trolloques les accompagnent. Leur chef se nomme Rand Altor, un homme jeune mais perverti au-delà de l'imaginable, et qui ment comme il respire. Partout où il passe, il se présente sous un jour trompeur, mais les trolloques le rejoignent toujours, et il massacre des innocents.
« Des trolloques, » répéta Tourak. « Il n'y en a pas chez nous, mais les armées de la nuit ont d'autres alliés. Je me demande souvent si un Grolm serait capable de tuer un de vos monstres. J'ordonnerais qu'on guette tes suppôts et tes trolloques, si ce n'est pas un mensonge de plus. Ce continent me fait périr d'ennui. »
Tourak soupira et respira à plein poumon la vapeur qui montait de sa tasse. Fane se laissa tirer hors de la salle par Juan. Très content de sa prestation, il prêta une oreille distraite aux menaces du semi-chauve, qui jura de lui arracher les tripes à main nue s'il osait encore une fois s'incruster après que le haut seigneur l'eût congédié. Pareillement, il s'aperçut à peine qu'on le fichait dehors avec une pièce dans la main et l'ordre de revenir le lendemain.
« Tu ne m'échapperas plus, Rand Altor. Je te verrai mort. Ensuite, le monde paiera pour le mal qu'on m'a fait. »
Ricanant dans sa barbe, Fane récupéra ses chevaux et se mit en quête d'une auberge.